France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La scène se passe en Prusse en 1923. On dit qu'un collectionneur y a amassé sa vie durant des eaux-fortes de Dürer, de Rembrandt, que des chefs-d'œuvre, qu'il maintient dans de grands portefeuilles de cuir. Mais ce collectionneur a peu à peu perdu la vue. Tous les jours, pourtant, il continue à ouvrir ses portefeuilles pour y feuilleter ses estampes, une à une, lentement, les caresser, mais surtout les décrire. Un jour, un marchand d'art prend le train pour aller voir cette collection. La femme et la fille du vieil aveugle l'attendent au seuil de sa maison. « Je vous préviens, disent-elles, notre fortune a été rognée par l'inflation. Nous avons dû vendre beaucoup de pièces de sa collection, mais il ne le sait pas. On n'a pas eu le cœur de lui dire. » Qu'est-ce que ça change après tout ? Le collectionneur ouvre ses portefeuilles. Il prend la première estampe, la reconnaît au toucher, va commencer à en parler. Que va-t-il se passer ? La suite, vous la lirez dans une nouvelle que Stefan Zweig écrivit en 1925, « La collection invisible » et qui est reparue dans un joli petit volume des éditions Sillage. J'y ai souvent pensé cette année, et tandis que s'achève la première saison de « Allons y voir », où il s'agissait aussi de donner à entendre ce que l'on peut voir en fermant les yeux, pourquoi ne pas ouvrir à nouveau notre collection invisible ? On y retrouverait les images qui nous ont marquées, mais aussi celles qu'on a manquées. D'accord ? Mais dans ce cas, faisons-le ensemble. Final, avec toute la troupe, Hortense Bellotte, Éléonore Chaline, Manuel Charpie, Sophie Crasse, Mathieu Potbonnil, Julia Puma, Elvan Zabounia. Bonjour les amis.
Bonjour Patrick.
Une clameur, ça fait plaisir de vous avoir toutes et tous. Mais vous avez des nouvelles de Pierre Saint-Garavelou, c'est le seul qui nous manque d'ailleurs. Hein, eh oui, consternation.
Il est au Portugal?
Je sais pas, enfin en tout cas un seul sociétaire et tout est dépeuplé finalement. Bon, alors vous avez compris le principe, la règle du jeu. On va d'abord évoquer une image qui nous a marqué sur la saison, hein, de ces images qui ont fait nos émissions. Qui commence? Sophie Crasse.
Avec plaisir. Alors moi j'ai choisi de revoir Les Nymphéas de Claude Monet. Et en particulier,
c'était le 3 novembre, dis pour celles et ceux qui veulent réécouter l'émission.
Absolument. Et la raison de ce choix, c'est que finalement, l'exposition, là, en ce moment, à l'Orangerie, sur le flou, a remis à l'honneur, les Nymphéas, bon, qui n'en avaient pas forcément besoin, mais disons qu'on a été amené à les revoir. Et je trouve que, une fois qu'on a entendu l'émission et qu'on a entendu l'œuvre décrite comme un cimetière aquatique, eh bien, je trouve qu'on ne regarde pas les Nymphéas de la même manière. On voit finalement toute la texture de ces corps morts à la guerre, charriés dans ce paysage d'eau. Et c'est quelque chose qui Et très frappant pour moi, à titre personnel, je peux raconter une anecdote. J'ai pour la première fois fait le lien en fait entre ce travail de Claude Monet et la guerre, la Première Guerre mondiale, au Centre Pompidou Metz en 2012. Il y avait une exposition 1917, et c'était pour moi la première fois que je réalisais en fait que cette série d'œuvres se tenait pendant la guerre, que c'était une forme d'art en guerre en fait. Et c'est seulement après que j'ai lu le livre de Laurence Bertrand dans les hacks, qui revient en fait sur ce qu'il faut comprendre en fait de cet événement en réalité.
Et le livre de Grégoire Bouillet, qui était l'autre invité de l'émission, et ben intégrait d'une certaine manière cette révélation également dans l'histoire personnelle d'un regard d'abord désorienté et puis finalement dessillé. Donc ça marche, notre émission, finalement ça permet de faire voir autre chose de ce qu'on avait déjà vu. Quelqu'un veut réagir?
Ce qui était impressionnant dans le commentaire de Grégoire Bouillet, c'était ce rapport de l'image qu'on voit à l'image qu'on ne voit pas et qui est cachée sous celle qu'on voit. Cette idée qu'il y a quelque chose sous les nymphéas qui sont considérés au fond comme une pure surface et comme une pure montée à la surface de la couleur. Cette idée qu'il y a dessous peut-être des cadavres qui gisent. Il y avait là quelque chose de saisissant et qui effectivement avait peut-être à voir avec la façon dont les images nous ont affectés cette année.
Oui, et puis on n'a pas tout raconté aussi parce que effectivement la suite du livre parle des éventails et parle du japonisme qui nous a aussi occupé cette année, Sophie Crasse.
Oui, et puis on a parlé du rapport de Monet à Turner et à la peinture anglaise. Et pour moi, le rapprochement s'est fait aussi avec ce tableau incroyable de Turner, le bateau négrier, The Slave Ship, qui se présente lui aussi comme en fait un cimetière aquatique, hein, vraiment, quoi, avec ses membres humains qui émergent comme ça de la surface de l'eau. Donc je trouve que ça permet de nouvelles associations et de nouvelles manières de comprendre l'impressionnisme, voilà, dont on pense peut-être qu'il est vu et revu.
Mathieu Pot-Bonneville, vous avez pris la parole, ben voilà, faute, sanction, c'est à vous.
Ben voilà. Me voilà bien. On va continuer sur le même ton, c'est-à-dire sur le rapport. D'abord, je suis d'accord avec Sophie sur le fait que sous les images, il y a la guerre, et qu'au fond, sous l'ensemble des images, peut-être, que nous avons considérées cette année, il y avait la guerre, le bruit de fond de la guerre, des massacres, des crimes de guerre. Et de ce point de vue-là, moi, l'image que je retiens ou qui me revient, c'est celle qui est surnommée l'Abaddon de Bentala. Cette image, cette photographie de Hossein Zaourar, prise en 1997 au plus fort de la guerre civile en Algérie.
Et on en a parlé le 12 janvier.
C'est ça, avec Kamel Daoud, qui avait sorti son livre Houri, qui est une image assez fascinante, parce qu'au fond, ce cri silencieux, c'est de cela qu'il est question. Vous avez peut-être l'image en vue, hein, une femme crie bouche mi-ouverte et une autre femme tâche de la contenir ou de la consoler. Cette image-là est saisissante parce que, comment dire, c'est un étrange dispositif audiovisuel. C'est un cri qu'on voit, mais que du coup on n'entend pas, et se joue dans cette image, tout le rapport de ce qu'on voit à ce qu'on entend, de ce qu'on entend à ce qu'on n'entend pas, de ce qu'on voit à ce qu'on ne voit pas, si j'ose dire. C'est d'autant que l'image étant prise ou reçue pour s'apparenter avec l'iconographie chrétienne, au fond, elle vient rendre acceptable ou appropriable un drame qui concerne, bien entendu, le monde musulman. Donc cette image, elle n'a cessé de me revenir au long de cette année parce que je me suis d'abord demandé en écoutant la conversation avec Kamel Daoud, qui était à ce moment même accusé de silencier un cri, en lui donnant une voix romanesque, vous vous en souvenez. Voilà, ce qu'il en était des cris silencieux et des cris silenciers. Et au fond, cette année, nous n'avons cessé, et c'est encore le cas ces jours-ci, alors même que l'offensive en Iran vient recouvrir ce qui faisait la une de l'actualité jusque-là avec Gaza. La manière dont les images glissent les unes sur les autres, dont les cris se font entendre, mais du coup nous rendent sourds à d'autres cris, cette lutte des images pour la conquête du son et de la vue, à mon avis, c'est un assez beau résumé. Un résumé assez terrible, oui, de ce qui nous a travaillé cette année.
Et puis ces images qui reviennent sont aussi des images qui reviennent où par transparence on en voit d'autres. C'était votre rôle, Julia Puma d'ailleurs, de nous faire voir d'autres images. Et là j'y pense, ne parlez pas de la vôtre maintenant, mais simplement de celles qui sont derrière la Madone de Bentala. Il y a beaucoup dans la peinture italienne de ces cris silencieux, de ces bouches grandes ouvertes qui effectivement nous paraissent étranges jusqu'au moment où un drame contemporain vient en représenter l'acuité ou même, je dirais, l'actualité pathétique.
Bien sûr, il y a des fois des bouches ouvertes à des fins positives quand il s'agit simplement d'entonner de la musique, mais bien sûr que dans l'iconographie chrétienne et tout ce qui est lié au cycle de la passion, on voit des corps déchirés et des bouches exprimant la mort et la souffrance. Et je m'interrogeais sur cette formule qu'on répète à l'envi de la Madone de Bentala, et est-ce qu'on pourrait pas plutôt aller puiser du côté des pathos formels de Warburg et donner à une image de ce genre un titre un peu moins chargé, par exemple, douleur, consolation, la consolation est-elle possible, etc. Même si, bien sûr, on peut aller chercher une généalogie aussi chrétienne, ça n'est sans doute pas la seule derrière cette image, et on peut peut-être l'alléger de son titre.
C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé pour alléger la douleur du monde, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, pour la convoquer devant nous, de ces images de guerre. La mort du jeune Bara, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était le 8 juin, et vous vouliez revenir dessus, Éléonore Chaline.
Oui, je voulais revenir dessus parce que en écoutant l'émission et en écoutant ceux qui étaient vos invités au cours de cette émission, je me suis demandé, voilà, il y avait toute cette question de du rapport à la nudité, au nu de l'enfant, enfant, adolescent, puisque ce jeune Joseph Bara a 13 ou 14 ans, et vous avez passé un extrait d'Alain Jouffroy en 2001. Qui défendait, lui, cette hypothèse de l'érotisation inconsciente ou semi-consciente que contenait ce tableau.
Ça avait d'ailleurs créé un débat et même peut-être un malaise.
Et la plupart des invités disaient pas du tout, il n'y a pas ça. La nudité, c'est l'innocence et c'est ça qu'il faut voir dans l'œuvre de David d'Angers et dans cette sculpture de 1838. Et en fait, l'extrait d'Alain Jouffroy parlait du tableau de David, La mort du jeune Bara. Et après cette émission, je me suis dit, non mais qu'est-ce qu'on peut voir en fait dans ce nu et avec qui on peut réfléchir à ces images, à ce qu'elles nous font aujourd'hui? Et je me suis tournée vers une théoricienne américaine, féministe, qui s'appelle Abigail Solomon Godot, qui écrit tout un passage sur ce tableau en expliquant un peu tout ce qu'on peut comprendre, tous les corps que rassemble ce corps, du corps de l'enfant, du corps innocent, du corps universel qui est mi-homme, mi-femme, puisqu'il est efféminé, etc., du corps utopique, du corps politique. Et voilà. Et en fait, ces questions de nu, elles sont assez contemporaines, puisque c'est ça aussi qui se joue, c'est comment on regarde aujourd'hui, comment on relie aujourd'hui. Or, ce tableau ne posait pas problème au XIXe siècle, et aujourd'hui, quand on le regarde différemment avec nos yeux d'aujourd'hui, et on se demande comment percevoir en fait toutes ces ambiguïtés, toutes ces ambivalences. Et je pense que c'est ça aussi qu'on peut retenir de toutes les discussions qu'il y a eu cette année, c'est finalement ne pas fermer l'interprétation, qu'il y a aussi une sorte de... Cette image, c'est une fiction, elle nous dit quelque chose, elle rassemble un certain nombre de tensions. En fait, on ne peut pas refermer l'interprétation, voilà.
Et sur cette question, évidemment, ça a été... à bien des moments de cette saison évoquée, mais sur d'autres, la guerre, justement, Elvanza Bunyan, vous êtes une historienne, on le sait bien, de l'art contemporain, mais vous avez choisi, depuis cette hantise, de revoir une image ancienne.
Exactement, j'ai choisi Paolo Uccello et la bataille de San Romano, parce que c'est sans doute grâce à ce tableau, en tout cas ce panneau de ce triptyque, que j'ai commencé l'histoire de l'art. Donc j'étais très émue en fait qu'une émission soit consacrée.
Comment ça s'est passé?
En fait, c'était un tableau que j'allais voir très souvent au Louvre quand j'étais enfant. Et d'ailleurs, j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps et il a été déplacé. Et à l'époque, quand j'ai commencé l'histoire de l'art, j'ai fait le pèlerinage vers Londres et Florence. D'abord Florence, puis Londres, pour pouvoir voir les autres panneaux et les comparer. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est qui a été aussi un petit peu le fil rouge, je dirais, de beaucoup d'émissions, c'est comment cet art plus ancien éclaire le présent. Et c'est une question d'interprétation. Il en était juste... Éléonore en parlait, et Sophie également. Comment est-ce qu'on interprète d'une certaine façon ces positions plus anciennes? Et la question de la guerre étant omniprésente, cette bataille, en tout cas celle de Florence est un peu plus animée, mais celle de Paris est composée avec ses lances et ses chevaux et ce personnage central qui m'a toujours beaucoup marqué. Et c'est cette immobilité, ce moment en fait presque de silence, pour retrouver aussi comment est-ce qu'une image peut ou pas amener du bruit ou peut amener une violence. Et ce silence et surtout le doré sur ce panneau en fait m'a toujours beaucoup marqué. Et c'est vrai que cette immobilité avant la bataille, et puis l'autre question en fait pour moi, la question de la bataille, surtout à cette période, et Uccello est particulièrement fort pour cela, c'est qu'il y a ce décor, enfin ce fond où il y a un paysage, et la façon dont le paysage intervient comme un espace qui est aussi très théâtralisé m'intéresse en particulier, puisque quand on regarde un paysage, et dans les lieux de massacre ou les lieux de guerre, il y a des lieux qui ont été des lieux de bataille et qui sont devenus des beaux paysages.
Oui.
Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
C'est une émission où, d'ailleurs, avec Pauline Laffy, on s'intéressait au bruit.
Exactement.
Au bruit de la bataille. Et donc, on retrouve cette question du silence, mais pas seulement, d'ailleurs, Manuel Charpie, parce que c'était aussi mis en regard avec, justement, une autre peinture d'histoire plus contemporaine, celle de Guillaume Bresson.
Oui, puis on avait évoqué aussi, effectivement, ces paysages photographiés, la Vallée de la Mort, notamment, de Fenton, sur ces images d'après, quoi, qui sont faites après la bataille, de ce qui reste. Moi, j'ai plutôt retenu une image qui n'est pas de guerre, parce que je suis... parce qu'on est à l'heure des confessions et des souvenirs. Pour rebondir sur ce que disait Mathieu, il se trouve que j'ai été tireur photographe dans un atelier pendant quelques temps chez Philippe Roulet, qui faisait tous les tirages photos noir et blanc de la des agences, en gros, dans les années, fin des années 90, et que j'ai tiré beaucoup d'images de la guerre des années noires en Algérie, et que j'en ai gardé, je pense, un rapport tout à fait maladif aux images de guerre. Je ne peux pas les regarder, quoi, pour dire les choses simplement. Je renvoie quand même à un bon livre, un très bon livre qui est sorti cette année, qui s'appelle « Algérie, la guerre prise de vue », qui est là sur la guerre d'Algérie, la guerre coloniale et décoloniale, publiée aux éditions du CNRS. Mais du coup, j'ai retenu plutôt l'image, moi, cette année de
Pierrot.
De Pierrot.
Le 22 décembre.
Exactement.
Bah, vous nous en parlez, d'accord, mais après une pause musicale.
I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. Socchiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love.
Love. Love in Portofino avec Golshité Farahani, 2017, reprise par Ibrahim Malouf. C'est moins bien que Dalida, avez-vous dit, Hortense Bellotte. Mais à vous entendre, tout est moins bien que Dalida, de toute façon.
Effectivement, c'est le cas.
Ouais, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On redonne peut-être la parole à Manuel Charpie parce qu'il nous a laissé sur un suspense insoutenable.
Oui.
Pierrot.
Pourquoi Pierrot? Sans doute parce que ça me semble être l'image la plus éloignée de l'espèce de saturation d'images horribles.
Et tout ce qui nous a hanté cette
voilà,
année.
Voilà. Ce mélange entre...
Alors c'est le Pierrot de Watteau, peut-être voilà. le redire...
Ce personnage de, a priori de théâtre, qui est sur le devant de la scène, qui nous regarde, et puis à ses pieds, on a derrière lui un âne et des personnages... sortie de la Commedia dell'arte.
On en avait parlé le 22 décembre avec Charlotte Guichard et Suzanne Rochefort.
Voilà, beaucoup plus savante que moi sur cette image, mais ce qui me troublait, c'était le fait qu'on a un personnage a priori ridicule et qu'en fait c'est sans doute pas lui qui est ridicule dans l'affaire. Quelqu'un qui est un peu qui est démodé, qui n'est plus à la mode, quelqu'un qui est nettement désarmé, et on ne sait pas s'il est idiot, ou s'il fait le clown, ou si, voilà. Et je sais pas. Je pense que dans cette année d'images à la fois, qui mélange l'IA et la guerre, pour dire les choses vite, on peut penser à la Gaza Riviera, ces images complètement ahurissantes qu'on a eues cette année. Cette espèce de frontalité simple et calme. Voilà, retenez mon attention. Et puis, parce que c'est aussi quand même une tradition, visuel, une tradition des images, une tradition culturelle de la résistance des, on va dire, des gens ordinaires, de la résistance des faibles, un art de la résistance. Je pensais y compris au clowning. Enfin, il y a tout un tas de traditions comme ça qui parcourent la modernité depuis le XVIIIe siècle au moins. Et qui est peut-être une forme de résistance des images à ce qu'on a reçu toute l'année.
Qui n'a pas encore parlé. Ah ben, Julia Puma, tiens, théâtralité, frontalité, résistance des images, c'est un peu vos thèmes, ça. Qu'est-ce qui vous a... L'image marquante de cette année.
Je suis votre regard, Patrick. Ouais. Oui, je vous propose qu'on retrouve cette image qu'on a explorée grâce à Jean-Baptiste Brenet, qui est venu nous parler d'Averroès. C'est une image de 1323, donc on remonte loin dans le temps, et la frontalité, la théâtralité qu'elle a, c'est que il y a un immense portrait de saint Thomas d'Aquin en son centre qui tient différents de ses écrits sur son sein, sur ses genoux. Et puis il est entouré de toute une galerie de grands penseurs rigoureusement, exclusivement masculine, cette galerie. De chaque côté, on voit Aristote, Platon et puis toutes sortes de figures importantes pour la théologie chrétienne. Et puis à ses pieds, bien plus petit que lui, Averroès. Et ce que je trouvais fort dans l'intervention de Jean-Baptiste Brenet, c'était son point de vue philosophique qu'il déployait grâce à la peinture. Il disait, voilà une tradition picturale, parce que le tableau dont je parle là, c'est l'Ippomemmi, donc on est au 14e, mais cette tradition, elle se poursuit avec Andrea Bonaiuti, avec Benozzo Gozzoli, sur plusieurs siècles. Et ce que Brenet mettait en avant, c'est
dans un livre qui s'appelle Averroès en peinture.
Merci. C'est qu'Averroès est toujours là, il n'est même pas refoulé, il a une place dans l'image qui saute aux yeux et qui est pourtant minoritaire.
Ouais, c'est une image marquante, en fait, on ne peut pas s'en débarrasser.
Oui, et puis il y a des fils d'or, littéralement, dans l'image, qui vont relier Averroès à Thomas et qui vont matérialiser l'influence d'Averroès sur Thomas dans la compréhension d'Aristote. Et pourtant, on dit une suprématie du second sur le premier.
Hortense Bellotte, vous avez été d'une discrétion suspecte jusque-là. C'est que vous vous préparez un coup. Enfin, pourquoi vous ne dites rien, au fond? C'est parce que vous voulez qu'on s'intéresse maintenant à ce que vous allez dire, peut-être.
Non, c'est parce que ça fait 3 minutes 30 qu'on n'a pas parlé de Dalida.
Ah oui.
Donc j'essaye de revenir régulièrement
avec ce sujet. Alors je pense que c'est le moment. Ou peut-être d'ailleurs rebondir sur ces histoires de robes ou
Dalida
de filles.
Dalida est un peu notre étrangère de l'intérieur, comme Averroès.
Voilà,
un peu complètement... recoupé avec avec le quattrocento ou le trecento. Et mais moi j'avais choisi de revenir sur la robe de chambre de Rodin que nous avait présentée Marine Kiziel. Pas tellement pour l'objet en lui-même qui est une espèce de robe de chambre moulée, mais donc au départ on a un véritable objet qui va être moulé par Rodin pour pouvoir y mettre son corps manquant de Balzac pour une statue qui sera finalement refusée. Enfin, en tout cas, c'est une histoire très complexe, mais ce que j'ai trouvé magnifique dans l'exposition que Marine Kiziel avait curatée et dans son bouquin édité chez B42, c'est que c'est une enquête et pour moi c'est presque un cours d'histoire de l'art en fait, de savoir comment à partir d'un objet visuel et peut-être même lui-même issu du réel, on peut arriver à articuler tous ses sens et notamment un des sens qu'elle articulait et qui ouvrait l'exposition et qui le clôturait aussi, c'était la question des corps manquants dans l'espace statuaire monumental français. Et elle ouvrait, l'exposition s'ouvrait avec toutes ces photos de soulèvements sur les places de la République, de la Nation, etc. J'ai toujours été attentive, moi, à ces micro-dégradations de l'espace public. Et ces derniers mois, c'était magnifique. Les deux sculptures, et notamment celle de la République, place de la République, ont été complètement récupérées par les causes d'aujourd'hui, et non pas comme du vandalisme, mais donc davantage comme de l'animation du patrimoine, et surtout comme en tant que valeur. En tant que valeur citoyenne. Et je les prends en photo régulièrement.
Oui.
Et j'adore tous leurs nouveaux costumes et leurs nouvelles couleurs. N'en déplaise à certains.
Mathieu Pot-de-Bonneville.
Oui, puisque nous jouons aux images comme avec un jeu de cartes, je voudrais juste situer entre le Pierrot de Watteau qu'évoquait Manuel et puis la robe de chambre de Rodin, une troisième figure ou un troisième corps qui est celui de la mariée de Niki de Saint-Phalle qu'on peut voir depuis quelques jours au Grand Palais avec le Centre Pompidou, qu'on peut voir en fait dans un diptyque de sculptures extraordinaire, puisque d'un côté vous avez la mariée et de l'autre une crucifixion. Deux femmes, la crucifixion est aussi exposée, exhibée, sexe exhibé et porte jartelle que la mariée est recouverte et la mariée est immaculée, elle est blanche, mais si on s'en approche et si on regarde dans les détails, on voit un maelstrom de domination qui recouvre et qui constitue en véritablement sa robe. Donc voilà, méfions-nous des détails, méfions-nous des vêtements.
Sophie Grasse.
Oui, cette conversation m'évoque aussi ce qui est amusant et intéressant aussi avec presque le métier d'historien ou d'historienne de l'art, au sens où les objets vont prendre une valeur et une fonction différente, que ce soit une robe de mariée ou une robe de chambre, c'est-à-dire finalement passer peut-être du statut de fétiche qu'on va conserver précieusement dans une maison musée d'artiste au statut de pièce à conviction qu'on va interroger et à partir duquel on mène l'enquête. Ça, c'est une partie assez assez enthousiasmante du métier.
Sly and the Family Stone, 1971.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom. Blood's thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
What a bear. What a bear. Newlywed still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there, but you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
C'est un peu pour vous, hein?
L'album d'Avignon.
Oui,
la musique, c'est un peu pour vous.
Merci ouais, beaucoup.
Pas de quoi.
En plus, Family Affair, en étant tous les sociétaires ensemble, c'était vraiment quelque
chose
qui était...
Ça y est, vous avez compris le message.
Oui. Ouais. Bah oui. Sly Stone, ou Sly and the Family Stone.
Bah, vous savez, avec vous, ce qu'on va faire, c'est on va passer dans la deuxième partie de l'émission, après avoir tenté de faire un inventaire collectif des images marquantes. On va continuer avec les images manquantes. Qu'est-ce qu'on a raté, mais enfin en tout cas, quelles sont les images qui nous ont manqué cette année? Quelles sont celles qu'on voudrait in extremis ramener sous notre regard? Vous avez une idée, Elvan?
Oui, en fait, je reste dans la guerre, malheureusement, mais j'avais envie de parler de cette artiste qui s'appelle Nancy Spero, qui était une artiste féministe très activiste aussi contre la guerre du Vietnam. Elle a passé quelques années avec son mari à Paris, Léon Golub, et quand ils sont retournés aux États-Unis en 1964, ils se sont retrouvés confrontés à cette guerre télévisuelle qui est la guerre du Vietnam, et ils ont décidé de militer avec elle, commençant une série qui s'appelle The War Series, donc une série sur la guerre. Et j'ai choisi en particulier une image qui s'appelle Search and Destroy, qui touchait particulièrement...
Vous
en
pouvez
fait,
la décrire un peu?
Oui, je peux la décrire. En fait, c'est un hélicoptère qui s'abat sur un corps. On ne distingue pas si ce corps est un corps féminin ou masculin, et le corps est ensanglanté. Et en fait, ce qui m'intéresse par rapport à cet artiste, c'est que à un moment où, dans le contexte de l'histoire de l'art, il y a beaucoup d'art conceptuel, beaucoup d'art minimal, le pop, etc., elle crée dans la matière en faisant gicler le sang, en montrant comment, en fait, Search and Destroy, donc, qui était un des slogans de l'armée états-unienne à l'époque, et comment, en fait, l'hélicoptère tue directement le corps. Alors, je suis un peu comme Manuel, j'ai beaucoup de mal à regarder les vraies images de guerre. Je suis un peu trop sensible pour ça, mais ce qui m'intéressait avec Nancy Spero, c'est qu'il y a aussi une forme d'abstraction qui touche la représentation. Et surtout, ce Search and Destroy, c'est encore un slogan qui est utilisé dans un contexte de guerre, pas uniquement lié aux États-Unis. Et c'est ce rouge sang, en fait, qui est presque travaillé à l'aquarelle, m'intéressait beaucoup avec ce fond blanc, où là, le zoom est fait. Et donc, c'est aussi une série, donc c'est un détail qui permet. Et surtout, Nancy Spero a été très fortement censurée à l'époque, parce qu'elle était une artiste activiste, féministe, et travaillant sur la guerre. Pendant des années, elle a été totalement invisibilisée. Et je me disais que c'était intéressant de pouvoir considérer ce qui, en regardant un peu ce qui se joue aussi aux États-Unis aujourd'hui, comment un certain nombre d'artistes ont été ceux et celles permettant de réfléchir à une situation d'actualité politique et émancipée.
Oui, ce qui se passe là dans le studio, c'est qu'on fait voir évidemment les images. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui. Hortense,
bah, spontanément, ça m'a fait penser. C'est la même composition que le rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une grenade, là, de Dali. Où on a un cours de femmes, et puis il y a cette espèce de gros tigre qui arrive, et avec au bout un fusil. Et autant, vraiment, Dali, je viendrai pas le ramener à cet endroit-là, mais je viens de regarder, mais il peint ça en 44. Et effectivement, il y a un truc dans ce truc du corps extrêmement innocent qui vient d'être piqué par un tout petit point.
C'est ça.
Et il suffit de ce tout petit point pour que tout explose.
Exactement.
Et ça rend presque Dali sympathique, cette œuvre.
Restons dans la machinerie du bizarre. Là, je suis en train de brandir une image. C'est la vôtre, Julia Puma. Qu'est-ce qu'on voit?
Alors, Permettez-moi de dire que ce qu'on voit, c'est un chariot de bois qui est très grand. En fait, il doit faire une 60aine de centimètres de largeur, 3 mètres de long et à peu près 2,50 mètres, 3 mètres de hauteur. Il a été fabriqué par une artiste qui s'appelle Dominique Fung. Il a été présenté à l'Armory Show de New York en 2024. Et donc, peut-être pour essayer, de reprendre notre respiration entre ces sujets graves, c'est tout simplement une image que je voulais mobiliser, je vais vous la décrire un tout petit peu plus, pour ce qu'elle permet de dire en réflexion, disons, de ce que c'est que la valorisation ou la transformation d'un objet en œuvre d'art de manière générale. Donc, elle fabrique un chariot de bois comme il s'en amenait au marché quand on venait y vendre au choix des poissons, des oiseaux ou de la porcelaine. Elle prend appui sur sa culture chinoise. Certains des petits animaux sont bien sûr représentés. C'est pas des animaux. Aucun animal n'a été maltraité dans cette œuvre d'art. Accrochés au chariot ou dans des cages. Et puis, pour certaines pièces et pour certaines pièces seulement, elle les place sous verre. Et donc, bien sûr, dès lors qu'elle sort de la présentation de l'objet qui va nourrir au sens charnel, physiologique au marché, et qu'elle place certains des items sous verre, elle pose la question de qui, quand, comment décide que ces porcelaines, c'est des porcelaines de la dynastie Shang, de plus d'un millénaire avant notre ère, deviennent des items sur le marché de l'art internationalisé. Voilà, c'était une réflexion. D'ailleurs, le titre de l'œuvre est « Marketplace » et joue sur cette polysémie avec laquelle, je me permets de le dire, certains d'entre nous s'occupent beaucoup l'esprit.
Oui, et puis de toute façon, on en a beaucoup parlé, Sophie Kras, de cette, ce qu'on appelle l'artification, la manière, au fond, la magie sociale par laquelle, au fond, un objet devient une œuvre d'art.
Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette œuvre, c'est que on a souvent tendance à penser le marché de l'art, mais je dirais le marché en général comme une abstraction. Et je trouve que c'est très bien de se rappeler que c'est avant tout un lieu, de marketplace. C'est vraiment un lieu. Et du marché aux poissons au marché de l'art, c'est un marché. Et je pense que le penser comme différents lieux connectés, imbriqués, où des vraies personnes vont manipuler des vrais objets et rentrer dans des transactions qui vont, in fine, changer le statut de ces objets et le mode d'existence de ces objets, ça permet de revenir au réel.
Les lieux, le réel, Manuel Charpie, vous nous en avez beaucoup parlé aussi cette année, en fait. C'est important aussi dans votre conception de l'histoire de l'art.
Oui, je vais revenir effectivement.
C'est pas pour que vous fassiez voir votre image, attention, fois vous vous trompez. Non, c'est juste que vous parliez des autres, tranquillement.
Ah oui, non, de cette image en tout cas, oui. Elle est très forte, cette image, par la matérialité. Et puis c'est assez rigolo parce que le premier temps où je l'ai vu, on voit aussi une espèce de bricolage qu'on pourrait placer sur quelque chose de très contemporain de bricolage, et puis en fait qui contient aussi tout un tas d'objets patrimoniaux extrêmement sophistiqués. Et voilà, j'étais très frappé par ça, mélange entre la virtuosité et le très grossier dans le bricolage.
Ouais, Sophie Grasse. Je me souviens de cette émission qu'on avait fait ensemble aussi avec Manuel Charpie sur le marché, le lieu du marché de Rouault, cette espèce de spectacularisation un petit peu des choses, une forme de mise en scène. En fait, tout ça, c'est nécessaire pour qu'à un moment donné, la transmutation de la valeur puisse opérer.
Une affreuse méprise. Il a cru que c'était son tour alors que c'est le tour d'Hortense. Bellotte. Et oui, alors.
Et alors, moi, pour pouvoir mettre un peu de joie dans ce monde de brutes épaisses, je voulais mettre un peu d'amour lesbien et queer et vous obliger, toutes et tous, chers auditeurs, à aller voir l'exposition du bal qui est curatée par Hélène Giannichini et qui présente des photos de Donna Goldschalk et de Carla Williams. Trois femmes, trois générations. Et en fait, c'est toute une enquête presque littéraire que fait Hélène Giannichini, cette expo est aussi un peu le prolongement de son livre édité au Seuil, Un désir démesuré d'amitié. J'ai amené une photo. En fait, il y en a plein, on aurait pu toutes les choisir. C'est donc Donna Goldschalk, une femme lesbienne de classe populaire qui prend des photos des années 60-70. Et Hélène a un peu réédité toutes ces photos-là récemment. Et notamment une des personnes qu'elle prend énormément en photo, c'est sa sœur, Mila, qui est une femme transgenre et qu'elle prend de ses 11 ans jusqu'à ses 50 et quelques années. Et là, j'ai ramené une photo où elle a 11 ans, elle dort très paisiblement. Et c'est une image très, très, d'une douceur extrême. Et ce que l'expo et les curatrices aussi indiquent, c'est que dans les années 60-70, être un corps queer, oui, il y avait Andy Warhol, oui, il y avait tout ça. C'était possible aussi quand on faisait partie des classes supérieures et que les classes populaires ont toujours eu des corps souffrants ou en tout cas plus précarisés médicalement. Et alors que Donna Golchak a aujourd'hui un peu plus de 75 ans, tous les gens qui sont sur ces photos sont morts. Alors, soit après l'épidémie de sida, soit juste d'un cancer et on ne peut pas se faire soigner, soit comme sa sœur Mila, qui était devenue travailleuse du sexe, par un assassinat dans les années 2000. Et ce que cette expo raconte, c'est à la fois une extrême douceur des liens entre les gens et en même temps l'extrême violence du monde qui les entoure.
Elvan Zabunyan.
Oui, c'est une très très belle image aussi, je trouve. Elle date en effet de 68, celle-ci. Et 1968, c'est juste un an avant Stonewall. Et c'est quand même des femmes trans qui ont été à l'initiative et des femmes trans qui appartiennent justement aux classes populaires et aussi, je pense notamment à Marsha P. Johnson qui se fait aussi assassiner dans les années 90. Donc ce que tu dis là de cette douceur grâce à l'image permet en fait d'apporter une poésie énorme à un monde d'une grande violence, et c'était très bien, c'est une très belle image.
Coming Up, Diana Ross, 1980, on est dans nos affaires de famille, on cherche en ce moment à reconvoquer les images qui nous ont manqué cette année. Éléonore Chaline, c'est une photographie j'imagine qui vous a manqué comme toujours, vous êtes insatiable, une photo de famille.
Une photo de famille, enfin, on ne sait pas trop, peut-être plusieurs familles. Mais avant de vous répondre, je voulais juste ajouter une chose sur cette image, peut-être, c'est la question « Par quoi passe la douceur en photographie ?» Et en fait, c'est ça aussi, quand on la regarde, qui est très frappant. Et finalement, ça relie peut-être avec celle dont je voudrais parler aujourd'hui, qui est une photographie d'un des photographes les plus connus du XXe siècle, Eugène Hadjet, qui représente des zoniers, donc des habitants de la zone à Paris au début du XXe siècle, qui a aussi une forme de douceur en fait. Parce que ce qui me plaît dans la photographie, C'est aussi finalement la manière dont on peut s'y perdre, dont on peut se plonger dans des visages qu'on ne connaît pas. Là, on a beaucoup de matière puisqu'il y a 16 personnes réunies sur cette photographie et un chien que souvent on ne voit pas qui est couché par terre dans l'ombre à l'avant de cette image. Voilà, il y a des femmes, il y en a 3, il y a 6 hommes, il y a 7 enfants, un bébé. On ne sait pas trop qui ils sont et si on ne savait pas que c'est une photographie de Jeanne Hadjé, on pourrait quand même se dire que cette image nous met dans une situation qui est aussi une situation d'attente et nous oblige à regarder ces gens qui sont des travailleurs dans leur environnement immédiat. Hadjé, c'est pas un ethnologue, c'est pas un ethnographe et pourtant, il fait quand même une photographie du proche. Il photographie voilà, ces gens là où ils sont. Il va à leur rencontre et vous voyez, quand on regarde cette image, ils ont pas l'air, à part la petite fille qui est devant, ils ont pas l'air d'avoir peur du photographe. Voilà, et je trouve cette image assez belle et je voulais vous en parler parce que en fait cet ensemble de photographies, ça fait partie d'un ensemble de photographies sur la zone, donc qui s'appelle Zonier, qui est un album que Hadjé va constituer dans les années 1910-1920 et qui fait l'objet d'une enquête dans un livre qui vient de paraître, qui est sorti en avril dernier, qui s'appelle Eugène Hadjé, la photographie des hommes libres. L'auteur, c'est Yannick Lemarec. Et en fait, ce livre se demande pourquoi Hadjé va là, pourquoi il se rend à cet endroit, pourquoi il fait ses photographies. C'est intéressant de le lire et ça pose... Enfin, c'est un livre qui, à mon avis, pose la question du sens politique qu'on peut trouver dans les photographies d'Hadjé, ce qui est peu mis en avant, puisque c'est peut-être le photographe le plus silencieux, un des photographes les plus silencieux dans lequel on a mis énormément de choses. Et il nous dit finalement, cette zone qui a toujours été photographiée comme un endroit malfamé, etc., Hadjé en donne une autre image. Et il fait l'éloge, en fait, de la lenteur et des hommes lents. Et je trouve ça assez beau.
Regardez les hommes, les travailleurs, la zone, Manuel Charpie. J'imagine que ça vous... à vous permettre de rebondir.
Oui, ça résonne. J'avais même pas pensé. J'étais en train de penser à d'autres photographes qui ont travaillé sur la zone, qui sont allés souvent avec un projet politique. On se rappelle de Maurice Holbach qui est parti pour le journal L'Humanité photographier et qui à la fois était sociologue et a pensé que la photographie pouvait devenir un outil avec des très mauvaises photographies, mais le geste était très important. Oui, moi j'ai retenu. J'ai été marqué par la découverte il y a peu de temps du travail de Bouba Touré, qui était donc un immigré installé dans le foyer Pinel du côté de Saint-Denis et qui était là comme ouvrier pour Chausson, qui faisait une fabrique de carrosserie, dont l'usine était à Asnières. Et c'est un homme qui s'est formé à la photographie tout en étant donc ouvrier dans les foyers, qui a fait de la photographie pour les habitants des foyers. Alors on a perdu ce premier temps de son histoire à la fin des années, enfin au milieu des années 70, puisqu'il a, en déménageant, etc., les valises ont été perdues. Mais il a continué à photographier et puis il a très vite photographié les luttes de tous ces, on les appelait pas encore les sans-papiers, mais de tous ces immigrés qui étaient en gros en Île-de-France. Il a quand même laissé 80 000 négatifs, donc c'était quelqu'un qui vivait au quotidien par la photographie. Et puis,
il y a une histoire de la collection, j'imagine,
oui,
de Bouba Traoré.
Et avant ça, même avant que j'y vienne, quelque chose qui m'a, je sais pas, j'ai trouvé très, très puissant, c'est qu'il allait, en fait, j'ai appris qu'il allait lui-même avec un projecteur de diapos et des paquets de diapos dans les foyers en Île-de-France, montrer les luttes des autres. Enfin, donc il y avait vraiment une sorte de pédagogie physique comme ça par l'image, des soirées diapo. On est dans les années 70-80. Et il y a une histoire effectivement qu'on doit à Raphaël Grisé, qui est un artiste et photographe, qui a travaillé avec Bouba Touré quand Bouba Touré était encore vivant et qui depuis 2022, depuis sa mort, travaille à archiver, numériser, rendre disponible tout cela. Et ils ont fait un geste qui est tout à fait important, c'est que ça a été donné aux archives départementales de Seine-Saint-Denis et voilà, qui sont sur ce travail-là. Mais je trouvais que ce travail de l'image à la fois discret et massif, parce que 80 000, c'est beaucoup, avec un vrai travail de documentation, d'annotation. C'était un travail, voilà, une sorte de lenteur dans le travail d'enquête et dans la durée qui m'impressionne.
Salif Keïta, bien sûr, en 1995. Alors, qui est-ce qui reste? Ah bah, Sophie Grasse. Alors, votre image manquante.
Eh bien, je voulais vous proposer de regarder une mosaïque qui se trouve à Aubervilliers, en fait, sur le site du campus universitaire Condorcet, où elle a été déposée il y a quelques semaines. Alors, c'est une mosaïque assez rudimentaire dans sa facture, puisqu'elle n'a pas été fabriquée par des artisans spécialisés, mais en fait par un collectif de participants volontaires, près de 80, qui ont chacun apporté leur petite tesselle, leur petite pierre, dans un atelier collectif qui était donc organisé par un groupe qui s'appelle Gaza Histoire, inventaire d'un patrimoine bombardé. Et de fait, cette mosaïque d'un mètre carré, c'est un fragment d'un pavement en mosaïque qui existe en réalité dans le monastère de Saint-Hilarion à Gaza, qui est un monastère dont l'histoire remonte au IVe siècle et qui a été récemment inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. Donc voilà, je voulais montrer à la fois ce geste et cette image qui ce geste en fait de poser en fait cette aisselle et de fabriquer en fait cette image, une image qui rappelle d'autres images en péril et puis qui nous, enfin je trouve que c'est un projet qui nous permet aussi de sortir de l'image de Gaza comme un territoire dévasté, un territoire de guerre dans lequel il n'y a rien en fait. Et c'est souvent ces images-là qu'on peut saisir dans les médias et se rappeler aussi de Gaza comme un territoire profondément de civilisation humaine et de multiples strates d'histoire. Donc voilà, c'est ce que je voulais montrer.
La civilisation. Mathieu Pot-Bonneville.
Oui,
c'est peut-être ça qui nous a manqué, non, cette année.
Peut-être le mot de l'année. Moi, je suis navré parce que je vais un peu prendre le contre-pied de ce que nous disons depuis tout à l'heure, où au fond, nous échangeons des images un peu désirables, un peu comme dans, que les auditeurs ne peuvent pas immédiatement voir, un peu comme dans les émissions de cuisine, vous savez, où on parle de plats qu'on ne peut pas goûter, ce qui est à la fois frustrant et tentant. L'image que j'ai choisie, à avoir avec le désir, mais d'une façon un peu tordue. C'est un portrait, une photographie.
Est-ce que ça nous étonne de vous, d'ailleurs, ça?
C'est pas totalement étonnant, peut-être. L'image de Donald...
Ah, elle est jolie, celle que vous avez. Oui, hein, vous êtes un ami de la beauté.
C'est un portrait en pied de Donald Trump. D'abord, pour rappeler combien de fois nous nous sommes arrêtés sur cette face, cette année. Combien de fois nous avons été convoqués par le visage de Donald Trump à penser ou à ne pas penser. Il y a une dimension profondément autoritaire de l'image de ce visage qui, je pense, mérite d'être mentionnée. C'est une image qui a été prise le 14 juin lors du fameux défilé militaire organisé par Donald Trump le jour de son anniversaire. Mmh. C'est une image intéressante parce que Trump fait vraiment la gueule. Il a un visage incroyablement fermé.
Souvent, non ?
Il boude. Enfin, c'est une sorte de bouderie avec cette affreuse puérilité qui est chez lui l'envers du désir de toute puissance. Et il boude. Et évidemment, dans les jours qui suivent, tout le monde s'est demandé pourquoi il boudait. On a vu surgir beaucoup de montages sur les réseaux sociaux en particulier qui montaient cette image, tantôt sur les foules clairsemées qui assistaient au défilé, tantôt sur les défilés bien plus nombreux, bien plus massifs, de ses opposants qui célébraient ce qu'ils ont appelé le King's Day, un peu partout aux États-Unis, en se mobilisant contre, précisément, cette dimension autoritaire. Donc, le monde entier, enfin une partie du monde, a voulu voir dans cette image quelque chose comme une mise en échec de la toute-puissance, du désir de toute-puissance de Trump face à son défilé militaire, alors même qu'il n'y avait pas grand monde pour le regarder, mais beaucoup de monde pour s'y opposer. Je dis qu'on a voulu le voir parce qu'au fond, quelques jours plus tard, Donald Trump déclenchait les frappes sur l'Iran, rappelant que la puissance militaire n'est pas un trompe-l'œil, et que peut-être qu'on s'est précipité un peu vite pour désirer, projeter sur cette image, pour jouer avec ce que les théoriciens russes du cinéma appelaient l'effet Kouletchov. Un visage impassible, vous le montez sur une autre image et hop, vous avez l'impression qu'il est joyeux ou qu'il est triste. Bon, là, de ce point de vue-là, on a été d'une certaine façon victime de ce désir collectif de voir sur ce visage fermé un échec qui peut-être ne s'y trouvait pas. L'épilogue de cette histoire, il est intéressant. On le trouve dans la Libre Belgique du 22 juin. Oui, je lis également, je fais également la revue de presse. Il faut tout faire.
La revue de presse francophone, PQR francophone.
On apprend dans la Libre Belgique que Trump était effectivement mécontent et qu'il a fait un scandale en coulisses, mais pas pour les raisons qu'on croit. Il était mécontent parce que, trouvait-il, les soldats souriaient trop et saluaient trop. Et ils saluaient trop la foule pour, d'une certaine façon, la rassurer. Il faisait des saluts de la main en souriant.
Ils ne savent pas marcher au pas, vous avez remarqué, ces Américains. Ils prennent tout le temps la voiture. Voilà.
Et puis, surtout, ils essaient de rassurer la foule plutôt que de l'intimider, ce qui ne convenait pas du tout à Trump. Alors moi, en lecteur de Michel Foucault, je me suis souvenu de cette phrase de Frédéric II de Prusse que Foucault cite dans Surveiller et punir, dont je ne tremble qu'elle soit vraie. Frédéric II assistant à un défilé et mécontent, son conseiller lui disant « Mais regardez, l'organisation est parfaite » et Frédéric II lui répondant « Hélas, il respire ». Et au fond, cette respiration des soldats qui saluaient la foule, peut-être est-ce le seul signe d'espoir de cette image assez navrante.
Eh ben, nous, non seulement nous respirons, mais nous respirons ensemble, nous conspirons. Et nous conspirons évidemment à vous retrouver l'année prochaine pour une nouvelle saison de « Allons-y voir ».
My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for.
Eh bien, c'était Allons-y voir. Merci à vous sept. Et oui, merci à vous sept. Sophie Grasse, Mathieu Pot-Bonneville, Éléonore Chaline, Elvan Zabunian, Julia Pouma, Hortense Bellotte, Emmanuel Charpie. Les références, des images, des émissions que vous avez citées, de celles qui vous ont manqué, sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet et Anouk Minaudier, à la prise de son Élise Leu et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.
We'll be right back.